jusqu'à 17h30, c'est à Kiltour édition de Tarn-et-Garonne et on s'intéresse maintenant au climat avec Christian Choquet.
Voilà, Christian Choquet ou Choqueux, hein.
Choqueux.
chercheur, vous dirigez le laboratoire d'études sur le développement, qui est un laboratoire que vous avez créé, qui consiste en quoi déjà?
Alors l'objectif premier de ce laboratoire-là est de créer des outils qui permettent d'évaluer en fait les aménagements du territoire dans le, sous l'angle du développement durable. Donc en gros, quand on parle de biodiversité, de quoi parlons-nous vraiment? Eh bien en fait, on a créé un modèle qui permet d'évaluer la biodiversité ordinaire et l'atteinte que l'on peut faire à la biodiversité ordinaire si on artificialise trop par exemple un territoire. Donc il va dire aussi quelles sont les mesures de compensation. Et un des modèles, je pense, pour lesquels en fait nous sommes ensemble aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est de mesurer les impacts du changement climatique sur des territoires à faible maillage. Donc par exemple un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, ou un groupement de communes. Ouais, donc
D'accord.
Une maille administrative que l'on comprend.
D'accord. Alors donc vous êtes amusé entre guillemets, ça a été votre travail, mais je suis sûr qu'à vous voir que ça vous a amusé, Christian Choqueux, à prévoir le climat qu'il allait faire ici sur notre territoire en Tarn-et-Garonne sur les 20 prochaines années, c'est ça?
Alors, écoutez, ce que vous dites est très pertinent. Vraiment très pertinent, c'est exactement ça. En gros, si on veut faire simple, on m'a dit dessine-moi mon département dans 20 ans. Voilà, donc il y a deux paramètres qui sont pas des invariants, hein, qui changent en fait, qui bougent, c'est les données climatiques de manière générale et les populations. Donc non seulement en pyramide des âges, hein, mais aussi en quantité. Donc en fait, en couplant ces deux domaines-là, bien on peut essayer de prédire avec les guillemets qu'il faut mettre. Et il y en a beaucoup hein, entre ce mot-là, du moins chaque côté de ce mot-là, pour prédire en fait ce que sera nos territoires demain.
Alors côté population, on sait que le Tarn-et-Garonne est un territoire qui va considérablement augmenter en nombre de population, puisque on le voit aujourd'hui déjà, Montauban devient la proche banlieue de Toulouse, Caussade devient la proche banlieue de Montauban. Saint-Antonin devient la proche banlieue de Caussade, c'est un peu comme ça. Est-ce qu'on a un risque d'avoir une espèce de mégapole qui va s'étendre comme ça vers la ruralité, tiens, justement?
Alors justement, ouais. Les interrogations sur la ruralité sont terriblement importantes, hein, parce que nous vivons en Midi-Pyrénées, à part Toulouse, qui est la métropole d'équilibre, dans des territoires qui sont essentiellement ruraux. Donc ils vont changer effectivement de visage pour certains, pour d'autres non. Hein, je pense que l'Aveyron a peu de chances d'évoluer en termes de population. Le Tarn-et-Garonne, donc les programmes montrent que devrait y avoir une augmentation d'environ 100 000 personnes dans les 30 à 40 ans qui vont venir.
C'est un tiers en plus de sa population.
Voilà, c'est exactement ça. Donc bon, c'est pas une catastrophe en soi. Hein, ça va augmenter effectivement la densité, mais on n'est pas non plus un département à très forte densité de population. Ce sera quand même pas Toulouse. Sauf que il va de soi que la raison est essentiel pour laquelle en fait il va y avoir un accroissement de population en direction, entre autres, du Tarn-et-Garonne, c'est qu'on est sur deux axes de communication majeurs, hein, qui est l'axe autoroutier à proximité. On parle d'isochrone, hein, donc en temps de parcours.
Isochrone.
Oui, oui, en temps de parcours relativement proche du centre de Toulouse, donc c'est un avantage. Et l'autre, c'est l'arrivée probable, prochaine en tous les cas, de la LGV qui va faire de Montauban un septal pour la région, donc un nœud de distribution. Donc en fait, les gens naturellement ont tendance à vouloir habiter près des endroits où on peut se déplacer facilement. Et alors, ça sera d'autant vrai qu'on imagine que le prix de l'énergie et celle liée au déplacement va augmenter. Donc en fait, il faudra minimiser ce temps de parcours et cette longue distance de parcours en étant le plus proche possible des...
Et alors, en quoi justement cette densité de population va jouer sur le climat du Tarn-et-Garonne dans les 20 prochaines années?
Alors là, ce sera pas le cas sur l'ensemble du département. Il y a peut-être, en fait, si on augmente la densité, la taille de la ville principale qui est Montauban, on peut voir quelques différences climatiques que l'on appelle îlots de chaleur urbain. Donc on a remarqué que plus la ville est dense, plus la différence de température entre la campagne et le centre-ville est important, et que dans le cas d'événements de type canicule comme on a connu en 2003, ces différences-là sont encore plus sensibles. Donc en ça, il peut y avoir éventuellement une réalité physique, mais globalement...
Oui, ça touche pas au climat non plus, quoi. C'est Il fait plus chaud en ville parce qu'il y a un peu plus de bitume de toute manière, hein, et on est un peu plus serrés les uns sur les autres.
Donc, c'est exactement ça, quoi. Hein, bon. C'est exactement.
Mais
ça.
En même temps, on met des clims, donc est-ce que la clim justement, elle aussi, elle, puisque il y a de plus en plus de clim,
oui.
On sait que la clim aussi c'est énergivore, et si ça crée du froid quelque part, il faut bien action-réaction, que ça crée du chaud autre part. Est-ce que la clim, justement, va influer aussi sur le climat?
Alors, vous avez décrit avec précision les deux raisons pour lesquelles, en fait, les villes chauffent plus que les campagnes. Voilà. C'est exactement ça. L'artificialisation, la couverture, en fait, le manque de verdure, en gros, et d'évapotranspiration qui est pour la végétation, qui est un régulateur de température, en fait, est un des premiers paramètres. Le deuxième, c'est que, bah, très justement, en fait, pour faire du froid, on fait du chaud, en fait. Ouais. Hein, en gros, c'est un frigo à l'envers, hein, une clim. Hein. En gros, ou c'est un frigo tout court. Et effectivement, en fait, les calories qu'on va extraire des maisons pour vivre plus agréablement, on va les remettre à l'atmosphère de l'autre côté de la barrière, qui est le mur de la maison. Quoi. Donc, ça participe du réchauffement et de la création de ce qu'on appelle les îles de chaleur urbain, et plus la ville est dense, naturellement plus il y a de clim, a priori, hein, c'est une règle de proportionnalité, et puis donc plus on échauffe, et ça peut être terrible, hein. J'ai entendu parler, alors j'ai pas de preuves à vous donner malheureusement, donc j'ai entendu parler, mais par des gens suffisamment sérieux pour que je vous le dise aujourd'hui, de delta, de différence de température de 15 degrés, par exemple, entre un centre-ville et la campagne ou la forêt qui est à quelques kilomètres.
Christian Tchoqueux, est-ce que ça va avoir une influence, vous parliez tout à l'heure de biodiversité, sur justement les plantes, la nature et les animaux de notre département?
Alors, donc sur les animaux, enfin oui, la partie naturelle, je dirais, ouais. Pas la partie artificialisée, hein, donc des animaux d'élevage,
oui.
Hein, c'est autre chose. Alors oui, il y a un certain nombre de conséquences. Alors sur la biodiversité, je dirais naturelle, bien on va créer un moment de transition, c'est-à-dire qu'il va y avoir certainement la disparition d'un certain nombre d'espèces qui vont être remplacées par d'autres. Donc en fait, si on parle de biodiversité totale, globale,
par exemple, le frelon asiatique va remplacer les abeilles.
Alors, mais ça, c'est pas lié tellement au changement climatique. Ça, c'est lié à un accident grave. Mmh. Hein, en fait, on a importé une espèce extérieure en fait à notre région qui est invasive, destructrice et qui va et occuper une niche. Très certainement, ou du moins qui va détruire une niche de manière grave. En fait, il faut s'interroger.
Le moustique est plus lié au climat, lui. Alors, le moustique qu'on trouve de plus en plus.
Alors, je vais vous faire sourire. Plus il fait froid, plus il y a de moustiques.
Ah bon.
Ah oui. Alors là, donc c'est le contraire de ce que l'on pense, et qu'en fait plus on va se rapprocher en fait des pays nordiques froids, mais qui sont où il y a beaucoup d'eau, donc où il y a beaucoup d'endroits où les moustiques se reproduisent, parce qu'en fait donc plus il y a de moustiques. Et je vous assure que passer la fin du printemps au Canada, ce que j'ai fait pendant une année, c'est pas triste. Hein.
Ah ouais.
Donc et si vous allez en Laponie, pour aller voir le soleil de minuit, qui est un spectacle assez magnifique, au-dessus du cercle polaire, vous allez être envahi de moustiques. Mais envahi, c'est des nuages qu'on peut pas imaginer ici, quoi.
Ah donc rien à voir entre la.
Ah non, ça c'est clair. Par contre, qu'il y ait des espèces de moustiques, alors je pense que vous. Pensez peut-être au chikungunya.
Oui, voilà.
Voilà, donc il y a des espèces nouvelles qui arrivent.
Le moustique tigré, là, voilà, qu'on ne trouvait pas dans nos régions avant et qu'on trouve ici, en Tarn-et-Garonne, il y en a aujourd'hui.
Donc quoi. Oui, alors là, j'ai eu une expérience assez intéressante. J'aime bien la nature, hein, parce qu'en fait, j'ai choisi d'habiter dans un petit village qui est entouré d'une très belle nature, dans le bout du Tarn-et-Garonne, et il y a des fleurs. Ben, voilà, c'est ce qui n'est pas une exception, hein, mais il y a de très belles fleurs, et en particulier des fleurs dont mythiques, comme des orchidées sauvages. Et il y en a une que j'ai observé avec l'aide d'un médecin caussadé qu'on n'avait jamais observé dans le coin. Et en fait, après l'avoir bien défini, on s'est aperçu qu'elle avait été pour la première fois observée en 1995 dans le sud de l'Algarve, donc dans le sud du Portugal. Or, c'est un hybride, hein, cette fleur, et donc il y avait les parentaux qui étaient tout autour et qui étaient là depuis très longtemps. Et jamais elle s'est hybridée. Pourquoi s'est hybridée? Ben parce qu'en fait, il y a un moustique, une bestiole, un insecte en tous les cas, qui est arrivé avec les petites modifications climatiques, donc portées par ces quelques différences de température, et qui est venu habiter la région. Et en fait, il a hybridé la fleur. Donc c'était en 2000 que cette première fleur a été observée sur le territoire de Bruniquel, et on en observe maintenant en Charente. Donc c'est pour vous dire que voilà,
la plante migre vers le nord. Comme
et ce qui migre, ouais. C'est pas la plante en fait, c'est le moustique, enfin le moustique, parce qu'on a parlé de moustique, c'est l'insecte
qui le pollinise.
Voilà, c'est exactement, ça qui est capable en fait d'aller voir les deux fleurs, de leur faire des petits coucous et puis de créer une nouvelle fleur.
Ben là, je fais vraiment un point vers le film qui va être projeté ce soir là au Cap Cinéma de Paris, hein, le Pollen, qui va démontrer justement tous les liens qu'il y a entre la faune et la flore pour que la nature continue d'avancer et survive. C'est vrai que ce qu'on peut craindre, c'est que l'activité humaine mette un petit peu le bazar au milieu de tout ça. Est-ce que c'est croire que l'homme est est-ce que c'est donner beaucoup d'importance à l'homme que de penser qu'il est capable de détruire tout ça? Tiens, je vous répondais pas de suite, on met un petit peu de pub et puis vous répondez après, Christian Tchouk.
CFM à Montauban. 101.2.
Samedi 16 et dimanche 17 avril, vivre le cheval en famille à Montclar de Quercy. La fête du cheval, c'est un spectacle permanent. Samedi, foire aux chevaux, ânes, poney, maréchalerie, vide-grenier, animation permanente sur la carrière, location de boxe, stand de professionnels et forains. À 19h, cabaret équestre, repas spectacle animé par le groupe Tzigane, Los Ninos. Dimanche, spectacle équestre avec les troupes Arkham de Gilles Fortier, Impulsion de Ghislain Kaila, Laurent Galinier, accompagné par une banda de percussionnistes. Restauration midi et soir. Information 05 63 30 31 72.
C'est le printemps. Pour passer un super week-end, faites un détour chez Marty Fleur. Le producteur de fleurs à Bioul vous ouvre ses portes les 16 et 17 avril de 9h à 18h non-stop. Chez Marty Fleur, laissez éveiller en vous la passion des fleurs avec plus de 200 000 plantes à massif, 25 000 géraniums et suspensions diverses. Marty Fleur, le producteur de fleurs entre Réalville et Bioul, ouvert du lundi au samedi. Marty Fleur, 05 63 64 29 27. Dimanche 17 avril, à découvrir parmi les plantes, fromage de chèvre, vin du Quercy et fruits du pays.
Au bureau, restaurant Brasserie Pub Lounge à Montauban vous attend avec sa nouvelle carte Menu Plaisir. Formule midi à 7,50€ ou carte midi et soir. Au bureau vous propose une restauration de qualité à base de produits maison. Pour vos afterwork et vos soirées entre amis, au bureau vous réserve des ambiances variées avec concerts vendredi et samedi. Ouvert 7 jours sur 7, au bureau zone Futuropôle, face Cap Cinéma à Montauban. Info au bureau-montauban.fr.
Vous avez entre 16 et 26 ans, vous habitez le Tarn-et-Garonne. Ce soir, vous avez passé une bonne soirée avec vos amis, vous avez un peu bu, vous avez peut-être fumé un joint ou pris d'autres produits, vous êtes peut-être tout simplement fatigué, comme les 16 jeunes morts sur nos routes en 2010. Le Tarn-et-Garonne est l'un des 5 départements les plus touchés par la mort des jeunes au volant. L'an dernier, 16 des 34 victimes du Tarn-et-Garonne avaient entre 16 et 26 ans. Ne soyez pas le prochain. Sécurité routière, tous responsables.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Alors, on continue notre conversation avec Christian Tchouk, chercheur, directeur du laboratoire d'études sur le développement. On est en train de parler développement durable, climat, évolution du climat sur les 20 prochaines années, là, et même plus dans notre beau département du Tarn-et-Garonne. Et donc la question que je vous posais avant la coupure pub, Christian Tchouk, c'était de savoir si c'était donner beaucoup d'importance à l'homme que de penser qu'il était capable de détruire, de mettre un peu de tout casser dans cette biodiversité par son activité.
Alors il y a deux façons de voir les choses. Hein. Il y a soit on met l'homme au centre de la réflexion, hein, de centre de préoccupation du développement durable, ce qu'a dit Bro à Harlem Gotland, soit on met la nature. Donc ériger la nature en tant que personne morale est peut-être aussi dangereux, hein, que de mettre trop l'homme en fait au centre de la réflexion. Je crois que ce qui est bien, c'est d'harmoniser la relation de l'homme à la nature de manière à ce que l'on laisse à nos enfants une nature intacte, mais qui va évoluer aussi naturellement. N'oublions pas ça. L'impact de l'homme est clair. Hein. Mmh. C'est clair et plus, en fait, de toute société, je dirais, animale. Hein, on a remarqué dans le parc de Yellowstone, à un moment donné, que on avait éradiqué le loup. Donc on est loin de l'homme là, on avait éradiqué le loup et qu'en fait la conséquence de l'éradication du loup, c'était que les saules qui poussent le long des cours d'eau disparaissaient.
Alors pourquoi ?
Alors voilà pourquoi. Eh bien parce que en fait les loups n'avaient plus d'action de prédation sur les cervidés. Et de les cervidés, eux, ben, ils progressaient en quantité. Il fallait bien qu'ils trouvent à manger.
Et donc, ils mangeaient les
voilà,
sols.
Donc, la nature, c'est... Voilà. Ouais. Et, bon, en fait, on s'éloigne de la préoccupation humaniste, hein, de la question que vous avez donnée. Enfin, il est certain que l'homme a une action sur la nature. Il a des actions négatives.
On parle énormément en ce moment. Il y a un truc qui fait couler beaucoup d'encre. C'est forages pour rechercher le gaz de schiste. Oui. Puisqu'on est en pleine zone ici, hein, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron font partie de cette zone dite la zone Cahors, je crois, dans lequel cette grosse entreprise qui est déjà beaucoup décriée au Canada, aux États-Unis pour ses méfaits sur la nature, viendrait faire ici la même chose. Là, ça aurait un impact direct, par exemple.
Alors, ça va avoir un impact doublement grave, d'abord, parce que d'abord, on n'est pas sûr de trouver en fait des quantités exploitables. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'en fait, il vaut pas mener plutôt d'autres réflexions sur d'autres formes d'énergie? Je disais, lors de cette conférence à la DDT, que le premier gisement d'économie d'énergie, c'est l'efficacité énergétique. On perd parce qu'on ne sait pas le transporter correctement, on ne sait pas la transformer correctement, on perd 40% de l'énergie secondaire produite en France. Donc ça commence peut-être par là. La production, alors les schistes en fait sont des réservoirs un peu particuliers hein, de gaz, il y en a effectivement dans certains gisements, mais alors il faut le fractionner énormément, donc il y a une action mécanique excessivement forte, et de monter en pression par des ajouts d'eau, comme ça pour pouvoir le faire ressortir. Donc c'est pour moi une véritable catastrophe dans la mesure où elle va rien apporter sur le plan de l'économie des hommes et que elle va être strictement destructrice en fait des sous-sols pour rien quoi en fait. Hein. Je crois qu'il vaudrait mieux dépenser l'argent autrement pour d'autres. Moi, je fais partie d'un groupe de parisiens, de scientifiques, hein, où on arrivait simplement à calculer que pour donner une entière autonomie énergétique à la France. Hein, donc pour tous ces besoins énergétiques, qu'ils soient domestiques, industriels, pour le transport, pour l'agriculture, eh bien il fallait 5000 km² de panneaux solaires. Et de panneaux solaires de première génération, pas des choses très compliquées qui posent pas de problème en fait au moment où on va les recycler. Hein. Eh bien 5000 km², ça paraît énorme en soi, et ce n'est que la moitié de la surface des toits en France. Donc voilà, donc je pense que ça serait, à mon avis, beaucoup plus judicieux de réfléchir dans ce sens-là, même si c'est pas la panacée. Mmh. J'en suis bien.
Oui, parce que il faut quand même, j'imagine, trouver là aussi du matériau pour faire les toits là.
C'est du sable, du silicium non dopé, et non cristallin. Donc alors avec des panneaux beaucoup plus compliqués, mais qui posent des problèmes environnementaux, on aurait besoin de beaucoup moins. Mmh. On diviserait par trois la surface. Mais rien qu'avec une solution technologique très simple, pas compliquée à mettre en œuvre, très facile en fait après à recycler. Ben voilà, donc
on pourrait remplacer Golfech par exemple, notre belle centrale nucléaire.
Voilà, donc de toute façon un jour faudra bien, parce que malgré ce que l'on dit, l'uranium n'est pas une énergie renouvelable, même s'il y a du recyclage, hein, les stocks sont finis, on le sait très bien, il y a un peak oil qu'on a dépassé très vraisemblablement en 2007, il y a un gas oil, il y a un coal peak également,
Maintenant, à chaque fois qu'on va en prendre, il y en aura de moins en moins.
Voilà, c'est ça. Clairement, pour l'uranium, ça sera la même chose, hein, d'autant plus qu'il semble qu'il y ait, il y a eu en tous les cas à un moment donné la volonté de multiplier les centrales atomiques, hein, dans le monde, pour justement limiter l'évolution de la hausse du pétrole et du gaz. Hein, il y aura une déplétion pareille un jour ou l'autre. Donc, il faut autant y réfléchir maintenant.
Eh ben voilà, il faut y réfléchir, parce que alors pour finir, hein, d'ici 20 ans, en Tarn-et-Garonne, donc 100 000 habitants de plus, un bon degré de plus à la campagne, hein, en ville, allez, 3 bons degrés. dans nos verres aussi, parce que depuis 20 ans maintenant, si vous buvez du vin de temps en temps, vous aurez remarqué qu'on est passé du 11 degrés au 13 degrés. Là, on a pris des degrés là aussi.
Ça, c'est une bonne nouvelle, non?
C'est plutôt une bonne nouvelle, qui est aussi liée au climat, hein, puisque c'est plus de soleil aussi dans nos vignes. Hein.
Presque tout sur notre terre est de l'énergie solaire transformée. Hein. Donc en fait, la fonction chlorophyllienne, celle qui va amener la vigne à pousser, à fabriquer du raisin et puis à le sucrer de plus en plus, en fait, va être à l'origine de la quantité d'alcool supérieure. Donc c'est, mais soyons sérieux, buvons avec modération
bien évidemment. Christian de Choqueux, vous travaillez sur quoi en ce moment et est-ce qu'on va vous voir prochainement participer à une conférence sur le climat?
Alors j'en ai 3 de prévues là d'ici la fin du mois prochain, plus d'autres travaux, oui, ça c'est clair. Un des modèles là qui me tient particulièrement à cœur, c'est la mesure de la biodiversité ordinaire. Parce qu'en fait, quand on parle de biodiversité, on a toujours tendance à parler de biodiversité remarquable. C'est la petite fleur hyper rare qu'on va trouver là, ou l'oiseau. Alors effectivement, c'est important. C'est très très important, mais nous sommes des éléments de la biodiversité et de la biodiversité ordinaire. Elle est importante aussi celle-là. Hein, c'est celle dans laquelle on vit tous les jours et c'est celle dont avec laquelle nous nous nourrissons. Hein. Je donne une image, imaginons qu'il n'y ait qu'une sorte de pomme de terre à travers le monde et que cette pomme de terre-là soit malade. Eh bien c'est la famine mondiale. S'il n'y avait pas plusieurs sortes de patates, eh bien on aurait des risques graves. Donc celle-là, moi, m'intéresse beaucoup plus que la biodiversité extraordinaire, remarquable, dont il y a plein de spécialistes naturalistes qui s'en occupent et très très bien. Hein. Vraiment, chapeau bas et félicitations à eux. Il y a l'autre, celle de tous les jours, qui me plaît bien aussi. Et donc on a construit un modèle qui permet, sur un territoire donné, de dire, en fonction des aménagements qu'on pourrait faire, les aménagements futurs qu'on appelle artificialisation, de donner des mesures de compensation pour pouvoir équilibrer justement la biodiversité qu'on avait à l'origine et de créer ces couloirs qui seront absolument nécessaires, hein, qu'on appelle corridors écologiques, de créer des endroits où les couloirs seront pertinents pour laisser passer la biodiversité vers là où elle devra aller, quoi.
Merci Christian de Choqueux d'être venu parler de biodiversité, de climat ici ce soir. À bientôt.
À très bientôt, merci. Au revoir.